merci beaucoup donc pour votre invitation en particulier. Alors bon, ce que je vais dire est un lieu de naissance en quelque sorte. Ce sont des discussions assez poussées au sujet, au fond, de ce qu'on peut référer à la notion simple de paysage sonore. Ça marche plus. Bon, c'est pour, je ne sais pas quoi. Alors, ah oui, parce qu'il se met en veille, évidemment. Voilà. Sur la notion de paysage sonore, ce sont des travaux qui ont été faits dans le contexte, donc ça vient d'être dit, de l'Université de Limoges, et surtout dans le contexte d'une fondation qui s'appelle la Fondation Laborie, que sans doute certains d'entre vous connaissent. Connue. Vous êtes corrézien, voilà. Et sur la base des travaux, en particulier des travaux de Louis Dandrel, qui a passé une partie importante de sa vie à enregistrer des sons, on va dire, des sons. Donc, dans ma réflexion, il ne s'agit pas de musique, il s'agit plutôt de l'idée de paysage sonore en général. Cette notion de paysage étant tout à fait intuitive, je ne vais pas essayer de la définir plus avant, vous la connaissez tous, elle est en un sens banale et en un autre évidemment assez compliquée, mais bon, je pense qu'on va faire comme si les choses de ce point de vue étaient claires. Donc comment décrire d'abord un paysage sonore et en quel sens s'agit-il d'une sémiotique? Et s'il s'agit d'une sémiotique, la question que l'on peut se poser, ou en tout cas qui vient à l'esprit immédiatement, c'est comment rendre compte ou comment justifier même la croyance dans le fait qu'il y ait, quant à ces paysages, une sémantique. Puisqu'après tout, le bruit d'une rivière n'est pas forcément quelque chose auquel on peut attribuer nécessairement une sémantique d'emblée, comme on le fait par exemple pour le langage, ou peut-être comme on le fait un peu plus facilement pour une musique, pour un air de musique. Alors, puisque, comme Bernoulli l'a expliqué très clairement dans son exposé, évidemment, un air de musique est pris dans un ensemble qu'on peut d'ailleurs comparer à un paysage aussi, fait de multiples espaces, et je le rallumerai quand j'arriverai. Alors, comment même nommer la difficulté? C'est le premier point. Le second point, conformément à ce qui, si j'ai bien compris, était l'enjeu de ce séminaire, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on parler d'une sorte de multimodalité, et y a-t-il entre les sons, je parle toujours des sons, et puis les images, ou les goûts, ce qui concerne le tact, y a-t-il des rapports qui sont autres que analogiques, disons, ou platement analogiques? Alors, de ce point de vue, comme un petit peu comme arrière-plan de la réflexion, on peut évidemment citer le texte de Boulez sur tiré du pays fertile, dans lequel il explique clairement que, au fond, si on veut représenter une mélodie et puis ses accompagnements, eh bien, on peut penser, c'est une idée qui vient de Paul Klee, on peut penser à un homme qui se promène et puis comme ça, et puis son chien qui tourne autour. Et ça ressemble effectivement à un thème principal et puis des accompagnements. Alors, la question, c'est: est-ce que cette transcription dans le domaine visuel de ce qui se passe dans le domaine gestuel, c'est-à-dire dans la promenade, et puis dans un domaine musical, jusqu'à quel point est-elle, on peut la tenir pour valide? Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que d'une certaine façon, il n'y a pas de raison pour ne pas la tenir pour valide, mais il y a une objection, et l'objection, Boulez, au fond, l'a fait d'une façon tout à fait simple et je pense tout à fait pertinente. C'est que si on regarde le dessin, ou si on regarde un tableau de Paul Klee qui s'est beaucoup inspiré de la musique, et si on regarde l'homme qui se promène, et si on écoute un morceau de musique, eh bien, on n'éprouve pas la même chose. On n'éprouve pas la même chose, même si la forme peut rester commune. Bon, il y a une autre expérience qui est beaucoup moins, qui est beaucoup plus technique, c'est la fameuse expérience de Bakirita, qui a consisté à essayer de faire voir les aveugles. Comment faire voir les aveugles? Eh bien, avec une caméra, on transcrit dans leur dos, sur l'épaule, la caméra envoie des impulsions, qui sont donc des impulsions tactiles, qui évidemment d'une certaine façon reproduisent, pourvu que évidemment la caméra ait un mouvement de scanning, mais qui reproduisent les formes des objets et qui permettent de se déplacer. Bon. Il se trouve que la chose marche bien, mais qu'en même temps, il semblerait que les aveugles n'en veulent pas. Pourquoi? Ben parce que c'est désagréable. C'est-à-dire que vaut mieux une canne finalement. Alors, pourquoi? On a fait tout un tas d'expériences, et en particulier des expériences érotiques, si l'on veut. Enfin, c'est-à-dire que la reproduction des images érotiques par le biais tactile ne fonctionne pas, ne sont pas érotiques. Donc, il y a quelque chose qui est très fondamental, c'est-à-dire que, aussi bien ce que dit Boulez que ce que disent les expériences avec ces caméras, c'est que il y a quelque chose qui est de l'ordre de la forme, ou en tout cas d'un certain registre de la forme, pas toute forme, mais d'un certain registre de la forme, essentiellement au fond ce qui correspond à un contour, qui semble transmissible d'un sens à un autre, et d'une certaine façon ce qui se transmet au fond a toujours plus ou moins, je ne vais pas développer ce point, mais enfin a toujours plus ou moins un côté tactile au fond, ou haptique, enfin je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais le côté passionnel semble ne pas pouvoir être transmis. Autrement dit, il reste toujours passionnellement quelque chose de spécifique à la peinture et à la musique, par exemple, même si il y a tout un tas de raisons pour aussi bien formel que rythmique, etc., pour chercher un passage entre les deux. Alors, évidemment, ce qui personnellement m'intéresse dans cette affaire, c'est que ça reproduit un très vieux schéma, c'est-à-dire que il y a entre ce que sont l'ordre des formes et ce qui est l'ordre sensible proprement dit. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc il y a ce que Platon appelait un chorismos, ça ne passe pas, en quelque sorte. Hein. Ça ne passe pas, et évidemment, à moins de vouloir se lancer dans une construction très idéalisante, on aimerait bien savoir pourquoi ça passe pas, mais on essaie bien. Or, il se trouve que la sémiotique, malgré tout, dans ses développements déjà anciens, privilégie considérablement le domaine des formes, de toutes les formes sur lesquelles je reviendrai, et puis donc le formel, si vous voulez. Le formel, y compris le formel syntaxique, donc, mais logique aussi, pourquoi s'en priver? Et au fond, ce qui serait à proprement parler la sensation, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais vous voyez qu'immédiatement quelque chose se trouve là désigné comme un problème. Une autre face encore de ce problème, elle est lexicale, c'est que un très grand nombre de termes dans le lexique sont exactement les mêmes. Le vocabulaire est exactement le même, que ce soit pour le goût, pour la vue, par exemple, ou pour le son, etc. Donc, par exemple, le fait d'être aigu peut s'entendre pour tout, tout le domaine des perceptions. Et donc il semblerait que là aussi il y ait un passage, mais un passage un peu plus complexe. Alors, quel peut être le point de départ? Je pense que un point de départ, en tout cas possible, c'est le point de départ phénoménologique, puisqu'il y a d'ailleurs là-dessus, sur la sonorité, une tradition en particulier, Pierre Schaeffer, bien sûr, que vous connaissez, et dont on peut dire qu'il a pris, en tout cas dans son livre sur les objets sonores, un point de vue phénoménologique directement. Alors, évidemment, le point de vue phénoménologique, il a sa présupposition. Sa présupposition, c'est que, en quelque sorte, on peut partir de quelque chose comme un sujet. Un sujet intentionnel. Un sujet intentionnel, c'est-à-dire un sujet qui est dirigé vers un objet, une conscience d'objet. Et au fond, dans le contexte du servir, en tout cas, exister, ça veut toujours dire plus ou moins être un objet. Il y a des objets. Et d'ailleurs, évidemment, Schaeffer parle d'objets sonores. Et ces objets sonores sont très largement le fait d'une expérience particulière. Il a coupé des bandes magnétiques et il avait des tout petits objets comme ça. Il a un son. Un son qu'on pouvait détailler dans toutes ses, depuis son attaque, son enflure, sa finale, sa chute, etc. Qui ressemble beaucoup à n'importe quel phénomène de perception d'ailleurs, parce que c'est toujours plus ou moins comme ça. On l'a rappelé tout à l'heure, une syllabe c'est comme ça, un goût c'est comme ça, etc. Bon. Donc une sorte de protoforme qui semble appartenir à beaucoup de domaines, mais qui a quand même un statut d'objet. Alors, est-ce qu'on peut se contenter de ça? Pour l'instant, mon schéma le fait, je vais le remettre tout à l'heure, on peut penser qu'en effet, dans une perception, il y a quelque chose comme une visée d'un horizon. Et donc, si j'ai un paysage sonore, une rivière, mettons, puisque j'avais pas mal travaillé sur le bruit des rivières, bon, j'ai un horizon d'attente et puis il y a une visée, etc. Mais l'expérience musicale, par contre, semble me dire, même si le justifier est difficile, que cette idée de visée d'objet correspond assez mal à ce que j'éprouve. D'abord, parce que je ne suis pas forcément dans cette position d'être une sorte de conscience visant quelque chose. Maintenant, comment se passer dans la description, comment se passer de ce scénario fondamental qui est le scénario phénoménologique, voilà, comment s'en passer? Alors il y a beaucoup de choses, comme par exemple les humeurs, hein, ou les sentiments divers, ce que les grammairiens appellent les diathèses, c'est-à-dire les dispositions, des choses comme ça, qui ne sont pas des actes intentionnels, qui ne sont pas des actes de perception intentionnelle. D'autre part, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être réfléchi. Il y a, dès le départ, dans la réflexion sur la perception, il y a dès le départ cette idée que le premier mystère, mais justement pourquoi je perçois quelque chose. Hein, bon. C'est la réflexion, c'est d'emblée la réflexion de Condillac qui dit si je sens l'odeur d'une rose, pourquoi ne suis-je pas tout simplement une odeur de rose? Pourquoi y a-t-il quelque chose dans l'extériorité qui sort dans l'extériorité comme une rose? Voilà. Alors donc si j'écoute un air de musique, pourquoi ne suis-je pas un air de musique? Qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose dans l'extériorité justement? Donc c'est la question de l'extériorité qui est fondamentale dans la perception, surtout par rapport à la perception esthétique, qui est extraordinairement intériorisante. La deuxième, je dirais, la deuxième étape dans cette réflexion, c'est que on a dit, et on dit, a pas dit, d'autres ont dit, que au fond, ce qui donnait le sentiment de réalité, c'était le tact. Donc c'est parce que, en quelque sorte, mes yeux touchent, mon nez plus exactement ici, touche le parfum, que c'est ce sentiment tactile qui donne l'extériorité. Mais évidemment, une fois que cela a été dit comme représentant une certaine évidence, ou en tout cas, disons, un point de départ, on avait une réponse à peu près satisfaisante, pourquoi ne suis pas un air de musique. La question qui s'est posée immédiatement dans le contexte philosophique ici, c'est pourquoi je suis quelque chose, c'est-à-dire pourquoi j'ai l'impression d'une subjectivité. Vous voyez? Et évidemment, ça c'est même de Biran qui a posé la question comme ça. Pourquoi suis-je une subjectivité? Comment est-ce que je m'éprouve moi-même? Alors, vous voyez que le scénario phénoménologique, au fond, du moins dans sa version rigide un peu, fait question, parce que les deux faces du sujet et de l'objet sont chacune pour elles-mêmes problématiques. Alors, on peut illustrer ça par une petite image, si vous voulez. C'est l'image du tir à l'arc que j'aime bien comme image. C'est-à-dire, vous pouvez penser que le tir à l'arc, eh bien, c'est une flèche, un archer, et puis une cible. Ça, c'est un peu la vision phénoménologique des choses. Mais vous pouvez aussi penser que ce qui est fondamental, c'est ce cas, le cas dans la philosophie zen du tir à l'arc, ce qui est fondamental, c'est la beauté du déploiement de l'arc. Qu'il y a un sujet et une cible n'a strictement aucune importance pour cette affaire. Tout, c'est de savoir faire en sorte que l'arc se déploie convenablement. Alors, on pourrait dire que, d'une certaine façon, dans la perception, il en va comme dans le tir à l'arc. Ce dont il s'agit, c'est sans doute moins d'une visée intentionnel, au sens de l'intentionnalité, vers un horizon à percevoir, au fond, le déploiement de quelque chose qui a à se manifester, mais qui ne peut pas se résumer par le parcours vers un but, en quelque sorte, selon la forme d'une flèche. Alors, ceci étant, ce que l'on peut, pour commencer maintenant un petit peu l'aspect sémiotique de la chose, on peut se demander maintenant en quoi est-ce une sémiotique? Parce que j'ai un parcours phénoménologique, j'ai un parcours de pure manifestation, si l'on veut, l'arc. Parle tout seul. J'ajoute, mais c'est un peu entre parenthèses, mais je crois que pour la musique, c'est quand même assez important. C'est que beaucoup de phénomènes de perception et surtout d'émotion, enfin de choses comme ça, ne semblent pas venir de l'extériorité, ils semblent plus venir d'une extériorité, mais d'une extériorité interne en quelque sorte. Un peu comme quelque chose qui vient, qui nous est extérieur, mais qui vient à l'intérieur. De même d'ailleurs que, en quelque sorte en symétrie, très souvent, nous avons l'impression que ce que nous percevons comme relevant d'une extériorité a sa propre intériorité, en quelque sorte. C'est le côté, il y a des dieux, en quelque sorte, hein, parce que il y a une intériorité de la nature, en quelque sorte. Les choses ne se présentent pas comme ça, comme jamais. Donc, vous voyez, entre ces deux, entre l'extériorité interne et une intériorité externe, on pourrait déjà faire une sorte de parcours qui commence probablement à tracer le chemin par lequel une sémantique peut se constituer. Dans le premier schéma que j'ai mis au tableau, j'essaye d'inscrire le fait que on est une sémiotique, c'est-à-dire dans l'acte de perception, l'acte étant en bas le plan de l'acte, l'énonciation si l'on veut, l'énonciation perceptive, et puis un horizon. Donc je suis pour l'instant dans le schéma phénoménologique. Eh bien, il y a quelque chose comme une expression qui en résulte, un plan d'expression. Ça veut dire, en schématisant beaucoup les choses, que, au fond, même dans le cas où nous avons l'impression d'un cas schéfferien, par exemple, où nous aurions un objet, cet objet n'est jamais autre chose, ne fonctionne jamais autrement, en quelque sorte, que comme un signifiant. Pas comme un objet, mais il fonctionne comme un signifiant. Il fonctionne comme un signifiant qui n'est pas. Qui n'est réductible ni à la physique de l'objet, ni à la subjectivité. C'est une relation intersubjective ou interobjective, ça dépend comment on veut dire, mais de toute manière, c'est une autre expression. Alors, comment le justifier? Je pense que la justification peut être relativement sommaire. En ce sens qu'il est assez, je pense, démontré que les perceptions visuelles par exemple, mais aussi bien les perceptions sonores, dépendent au fond d'abord d'un appareillage physique des sujets percevants. Bon, la perception visuelle de l'homme est trichromatique, donc on perçoit sur la base de trois types de cellules. Et ça, c'est incontournable, en quelque sorte. Ce qui n'empêche pas que on rencontre des longueurs d'onde, etc. Donc il y a une autre expression, mais il y a aussi une autre expression d'une façon plus raffinée, c'est-à-dire qu'il y a aussi comme Pierluigi l'a développé tout à l'heure, des espaces d'énonciation hein, qui peuvent être assez complexes, et des horizons sonores qui peuvent être assez complexes. On peut donc penser que ce que nous percevons, ce sont essentiellement, ou en tout cas peuvent être rangés dans l'ordre des signifiants. Du point de vue phénoménologique, on peut développer ça d'une façon un peu plus, beaucoup plus détaillée, si vous voulez. C'est l'idée qui est dans la. Qui est assez classique, d'ailleurs c'est pas lui qui l'a inventé, mais enfin bon, c'est l'idée de la perception par esquisse en particulier, mais c'est aussi l'idée de ce que Husserl appelle le noème de la perception, c'est-à-dire qui justement n'est pas l'objet, n'est pas le sujet, mais n'est pas l'objet non plus. Qui est cette sorte de structure intermédiaire qui n'est ni l'objet au sens physique, ni l'objet au sens d'une projection imaginative, mais qui est le fait d'une rencontre dans laquelle quelque chose s'exprime, c'est-à-dire un objet et un sujet, si l'on veut. Donc ça, c'est un schéma, je pense, qui ça va limiter dans l'ensemble des actes perceptifs, et en particulier des actes perceptifs dans le domaine des sons. À cela, il faut ajouter, naturellement, je vais en dire un mot, parce qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses tout ce que Pierre Schaeffer a dit sur les différents genres d'écoute, c'est-à-dire au fond les différents genres d'énonciation par rapport à un espace sonore. Je le dis très rapidement parce que je suppose que vous connaissez ça, mais pour mon propos c'est important de le dire. Il y a d'abord ce qu'il appelle bon, l'ouïr, alors qui est quelque chose d'indéfinissable au fond, puisque c'est. c'est l'entente banale, mais qui demande quand même à être réfléchi. Si je prends toujours mon exemple, qu'est-ce que c'est que ouïr dans le cas où, par exemple, vous êtes au bord d'une rivière, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez bien que sur cette base-là, c'est extrêmement difficile à définir, mais ça peut être énormément de choses. Énormément de choses. Ça reste pour autant flou dans la mesure où ça s'oppose à autre chose. Donc ça se définit véritablement. Alors, vient ensuite ce qu'il appelle l'écoute, et plus spécialement, qui m'intéresse plus spécialement, et c'est là où il est évidemment phénoménologue, ce qu'il appelle l'écoute réduite. L'écoute réduite, c'est quelque chose auquel il faut s'exercer, mais qui nous mène vers une, qui nous ramène en quelque sorte vers cette notion de forme. Qu'est-ce que c'est que l'écoute réduite ? Ben, c'est l'écoute qui suit le principe de la réduction ou de la mise entre parenthèses des phénoménologues, c'est-à-dire, au fond, sans se demander, sans statuer sur ce dont il s'agit. Déjà, on a quelque chose de nouveau là. C'est-à-dire que si j'écoute ma rivière, je peux essayer d'écouter la rivière sans tenir compte du fait qu'il y a quelque chose d'existant ici comme une rivière. Donc je fais brusquement surgir un domaine, un domaine d'objet. Quel est son statut ? Qu'est-ce que c'est que ce domaine d'objet qui est au fond indifférent à l'existence ? C'est ça auquel on demande d'être indifférent à l'existence. Qui est donc là juste qui se déploie. Alors je dis ça a à voir avec le formel. Oui, ça a à voir avec le formel, parce que s'il y a bien quelque chose qui est indifférent à l'existence, ce sont les formes pures, les formes mathématiques par exemple, les formes géométriques. Bon, ça nous est égal que s'il y a des triangles ou pas des triangles, c'est pas le sujet. Si maintenant je me mets à décrire si je me mets à décrire le bruit d'une rivière, je vais avoir affaire à quelque chose du même genre, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir repérer dedans des morphologies, comment je vais pouvoir trouver éventuellement une certaine cohérence syntagmatique, en tout cas si ce n'est syntaxique, est-ce que je vais avoir possiblement des paradigmes de son qui vont se développer, etc. Donc cette écoute réduite me met dans un espace qui n'est plus l'espace pratique, qui n'est pas non plus l'espace de mes émotions personnelles. Par exemple, la question n'est pas de savoir si j'aime ou je n'aime pas cette rivière, mais qui est l'espace au fond des idéalités. Non. Husserl dit ça à un moment, il dit on devrait pouvoir décrire nos perceptions comme on décrit les objets mathématiques. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire les faire venir comme ça. Or, évidemment, si je me mets dans cette position-là, et qu'est-ce que je peux faire au fond devant un paysage sonore ? Par exemple, j'ai le bruit d'une ville. C'est le bruit d'une ville. Je suis dans une ville, c'est le bruit d'une ville incontestablement. Je peux aimer, ne pas aimer, etc. etc. Mais qu'est-ce que je fais si je me dis maintenant, je vais décrire le bruit de la ville ? Forcément, je me mets complètement entre parenthèses. Si je veux le décrire comme un plan d'expression, je vais mettre complètement entre parenthèses, un peu comme un phonologue va mettre complètement entre parenthèses le fait que ça veuille dire ou pas dire quelque chose dans l'espèce. Qu'il y ait une référence, je veux dire. Bon. Alors, voilà. On a un certain type d'être qu'on peut rattacher à la forme des idéalités, qui est donc un pur déploiement qu'on peut associer, comme c'est un déploiement, qu'on peut associer à une syntagmatique. Il y a un autre type d'écoute dont nous parle Schaeffer, c'est l'écoute qu'il appelle l'écoute sémantique. C'est-à-dire, l'écoute sémantique, pour lui, c'est l'écoute où il y aurait quelque chose à comprendre. Par exemple, rattacher un son à des valeurs, bon. De toute nature d'ailleurs, possiblement de toute nature. Bien. Donc, le sens de ce schéma, c'est justement que, je peux dire, je suis dans une attitude phénoménologique, je construis un plan où les choses doivent évidemment se correspondre, ce qu'on appelle un plan d'immanence. Et puis, ce plan, eh bien, je le détache, en quelque sorte, de l'existence, aussi bien l'existence objective que l'existence subjective. Et c'est la condition sine qua non pour pouvoir en quelque sorte le décrire. Donc j'ai quelque chose qui est de la nature de l'idéal, si l'on veut. Je suis toujours dans. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est. La seule attitude possible, mais ce qui est intéressant, c'est que, au fond, ce que fait Pierre Schaeffer avec les sons, c'est exactement ça. Il a des sons, il les coupe, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend si on coupe un son, un petit bout de la bande magnétique? Bon, c'est très amusant. Qu'est-ce que je peux décrire si je suis dans la nature, par exemple, ou dans une ville, etc. Qu'est-ce que c'est que cette opération étrange qui consiste à pouvoir décrire purement et simplement une sorte de plan d'expression qui m'est donné en quelque sorte. Voilà un petit peu comment je vois, disons pour commencer, le statut sémiotique de la perception, de la perception générale et de la perception des paysages sonores. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut supposer maintenant qu'on peut les décrire. C'est-à-dire que ce plan idéal peut être décrit. Comment faire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On peut partir d'une idée tout à fait simple pour commencer. C'est que il s'agit d'un flux au fond. On a un flux sonore. Ce flux sonore a des morphologies. Il est habité par des morphologies. Essentiellement d'ailleurs, il faut bien dire, pour les exemples que j'ai pris. Mais pas seulement par des morphologies. Ici. Je suis parti d'une description que j'ai empruntée à William James, et je vais le citer, qui est tout à fait remarquable sur cette notion de flux. C'est tiré de son essai d'empirisme radical. Et ce dont il parle, justement, c'est de l'empirisme radical qui ressemble beaucoup, comme vous allez voir, à une expérience phénoménologique qui serait radicale et qu'il appelle l'expérience pure. Bon, toujours dans mon sujet, l'expérience pure. Je cite un peu longuement William James. L'expérience pure est le nom que j'ai donné au flux immédiat de la vie, lequel fournit la matière première de notre réflexion avec ses catégories conceptuelles. Ce qui est intéressant, c'est ce qui vient. Il n'y a que les nouveau-nés ou les hommes plongés dans un demi-coma dû au sommeil, à des drogues, à des maladies ou à des coups, dont on peut supposer qu'ils ont une expérience pure au sens littéral d'un cela qui n'est encore aucun quoi défini, bien qu'il s'apprête à devenir toutes sortes de quoi, riche aussi bien d'unité que de pluralité, mais dans des rapports non apparents, changeant au fur et à mesure, mais de façon si confuse que ces phases s'interpénètrent et que l'on ne peut discerner aucun point qu'il soit de distinction ou d'identité. L'expérience pure dans cet état n'est qu'un autre nom pour désigner le sentiment ou la sensation. Mais son flux tend à se remplir de points d'inflexion aussitôt qu'il se produit, et ses parties saillantes se trouvent alors identifiées, fixées et abstraites, si bien que l'expérience s'écoule maintenant comme si elle était criblée d'adjectifs, de noms, de prépositions ou de conjonctions. Sa pureté n'est qu'un terme relatif désignant la proportion de sensations non verbalisées qu'elle renferme encore. Donc, le flux de la vie qui ne peut véritablement que se percevoir que dans un semi-coma, ce qui somme toute est assez proche de ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ce demi-coma, ce qui apparaît malgré tout, c'est des points d'inflexion. Quelque chose comme tout un langage. Alors, ça ressemble évidemment à ce que j'essaye de décrire à propos du bruit des rivières, qui en effet sont pleines de points d'inflexion de ce genre, et je vais détailler un peu plus. Ce qu'ajoute William James, c'est la chose suivante, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre cette expérience pure et le langage. Il dit ceci: les prépositions, les copules, les conjonctions, et EST, n'est pas, puis, avant, dans, sur, à côté, entre, près, pareil, différent, comme, mais, éclose, comme dans le courant de l'expérience pure, le courant des concrets, ou le courant des sensations, aussi naturellement que les noms et les adjectifs, et il s'y mélange à nouveau avec la même fluidité quand nous les appliquons à une nouvelle partie du courant. Donc, ce courant va comporter tout un tas de choses, mais d'abord évidemment des prépositions, et puis des noms et des verbes, etc., qui vont, somme toute, à l'intérieur de l'expérience sensible, eh bien, nous donner une sorte d'équivalent de ce que sont par exemple les substantifs et les adjectifs, les verbes, les prépositions, etc. Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça? D'une certaine façon, oui. Si on regarde un peu en détail ce phénomène, on s'aperçoit assez bien que, au fond, le rapport du langage à la perception, eh bien, donne au langage des choses telles qu'on pourrait aussi bien les attribuer à la perception. Par exemple, pourquoi est-ce que je vais dire qu'une fleur est rose, par exemple? Pourquoi je ne vais pas dire que le rose est une fleur? Parce que je vais, dans ma perception, détacher les entités stables, la fleur, et les entités qui sont possiblement changeantes. Elle est rose, mais elle pourrait être rouge, etc. Donc, il y a bien, pas toujours, mais il y a bien malgré tout ce rapport entre le stable et l'instable. Des morphologies qui durent et des morphologies qui s'arrêtent, ou qui ont des formes occasionnelles. Donc des substances au sens ancien et puis des accidents. Alors, la première chose que nous décrit James, c'est précisément qu'il y ait des arrêts, des fonctions d'arrêt, des fonctions de relance, des fonctions de capture aussi. Par exemple, un son fusionne avec un autre. Et puis, finalement, ce qu'on pourrait appeler plus généralement des fonctions de repérage. Des fonctions de repérage, c'est-à-dire qu'il faut bien que ce qui est perçu à un moment donné soit perçu comme allant en quelque sorte ensemble. font une sorte de référentiel purement qui n'a pas besoin d'être dit, mais qui font que les choses semblent tenir ensemble. Alors, voilà déjà quelque chose qui nous donne comme une première mise en forme sémiotique, non seulement parce que on a un plan d'expression, mais aussi parce que on a des choses qui sont des segmentations d'un flux, des mises en morphologie, et puis des rapports entre des choses qui ont des statuts variables, comme par exemple les choses stables et les choses instables. Voilà. Donc, déjà, on a un ensemble de choses qu'on peut, par exemple, si j'y arrive, pour aller tout de suite à ça. Bon, vous voyez, ça, c'est une sorte de notation de musique électroacoustique. Eh bien, vous voyez que ça pourrait être parfaitement très bien, d'une certaine façon, le bruit d'une rivière, avec tout ce que j'ai dit à partir de William James, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Ce qui commence, si vous voulez, le plan d'expression ainsi compris, commence à faire comprendre un tout petit peu pourquoi on peut éventuellement avoir une sémantique. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, s'arrêter, ça va vouloir dire s'arrêter, etc. Il y a toute une... C'est-à-dire que les morphologies elles-mêmes sont directement porteuses de sens. Maintenant, évidemment, cette perception, elle ne se contente pas de détacher dans une attitude de mise entre parenthèses ou dans une attitude de coma chez William James. Elle ne se contente pas de décrire des morphologies, de décrire des coupures, de décrire des systèmes d'arrêt, des systèmes de capture aussi. Il y a tout un dans la tradition, il y a tout un tas de descriptions possibles de ces phénomènes, depuis les tourbillons jusqu'au etc. jusqu'au phénomène catastrophiste, enfin bon. Mais il y a aussi évidemment ce que j'appellerais les moments dynamiques, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique, et il y a une dynamique de l'appréhension elle-même. Bon, je pense qu'il y a plusieurs paliers différents. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de développer ça trop longuement. Quand même, je disais tout à l'heure, il y a plusieurs sens aux mots-formes. Et dans la tradition sémiotique, les plans d'expression sont en général divisés selon trois ordres de formes qu'on peut faire correspondre à des expériences sensibles. Il y a d'abord ce qu'on appelle tout bêtement les formes symboliques, c'est-à-dire que si, par exemple, j'introduis dans un phénomène sonore quelconque une sorte de règle, comme par exemple peut le faire une partition, comme l'a dit tout à l'heure, alors j'ai des formes qui correspondent à des règles qui sont donc ce qu'on appelle des symboles, c'est-à-dire qu'ils sont codifiés. Mais les systèmes de règles dans la nature, il y en a beaucoup. Par exemple, si vous prenez... c'est pas forcément quelque chose qui doit être avoir la forme explicite d'une obligation ou d'un interdit. Par exemple, si vous vous promenez dans la nature, bah, vous pouvez, par exemple, de temps en temps, avoir affaire en haut d'une montagne ou le long d'un ruisseau, à faire une frontière. C'est un type de forme qui est typiquement une forme symbolique, qui n'a rien à voir avec les formes. Alors évidemment, dans le langage, il y a des formes symboliques, et dans la perception aussi, il y a des formes symboliques. Et puis, un deuxième type de forme, c'est évidemment les morphologies, comme on l'a vu sur cet exemple. Il y a des petites formes comme ça, on peut appeler des formes iconiques. Elles sont iconiques en ce sens qu'elles ont une certaine stabilité, justement, et une composition interne à peu près stable. Et elles sont totalement différentes des formes symboliques, puisque précisément, elles ne correspondent pas à des règles. Donc, un frottement, par exemple, qui produit une forme comme ça, ou un goût, par exemple, qui produit la sensation d'un objet, eh bien, c'est une mise en icône, si l'on veut, de l'appréhension. Une troisième forme qui est tout à fait... c'est ce qu'on pourrait appeler les... dans ce schéma, on le voit aussi, ce qu'on pourrait appeler les textures, les sons. Tout ce qui, dans l'étude de l'image, est en général rapporté, Dieu sait pourquoi, ce terme de plastique, mais enfin bon, on peut supposer que ça veut dire quelque chose. Mais en tout cas, tout ce qui est texturable, tout, par exemple, toujours dans les rivières, il y a quelque chose qui relève énormément des textures, c'est qu'il y a des multitudes de grains, c'est-à-dire qui sont autre chose que des grandes formes, comme par exemple on aurait un développement un tout petit peu long et arrondi en quelque sorte d'un son. Mais quelque chose qui est une forme de granulation quasi tactile, qui est probablement due au fait que ça court sur des petits cailloux, des choses comme ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est une autre forme de forme. Et puis il y a des intermédiaires, bien sûr, comme toujours, lorsqu'on a une classification. Mais enfin, vous voyez que dans l'ensemble, on a une stratification de la dynamique sonore et de l'expression. Donc, une stratification de l'expression qui n'est pas donc simplement quelque chose que l'on peut comprendre linéairement, mais qui est aussi quelque chose qui a à faire avec des paradigmes morphologiques qui sont au moins de trois sortes, même il y en a deux autres qui sont peut-être moins intéressantes pour votre propos. En tout cas, cet aspect-là des choses enrichit un tout petit peu la modélisation de ce que peut être une forme sémiotique dans le cas qui nous intéresse. Troisièmement ou quatrièmement, on peut remarquer que, et ça je prends la chose chez Fer aussi, vous voyez, qui m'a beaucoup servi. Il a ce qu'il appelle un trièdre de référence que je trouve particulièrement bien ajusté par rapport à la sémiotique en particulier. C'est-à-dire qu'il comprend un son comme quelque chose qui se déploie selon trois plans. Toujours trois. Alors d'abord, évidemment, un plan dynamique dont j'ai essayé déjà de donner une première articulation, mais le plan dynamique, au fond, c'est la certaine forme que peuvent prendre les intensités en suivant l'ordre du temps. Donc c'est une syntagmatique, plus ou moins. Mais évidemment, on peut donc rapporter cela à une intensité et à une extension. Qui dit intensité et extension, je reviens à l'aspect formel des choses, semble montrer que, au fond, un phénomène sonore, on a envie de dire tout de suite, il va être descriptible selon l'ordre d'un ensemble de catégories générales. Donc l'intensité, c'est l'ordre des qualités, l'extension, c'est l'ordre de la quantité, et évidemment, il y a quelque chose d'autre qui intervient, c'est la valeur. les valeurs relatives qui sont l'ordre de la relation. Et on a donc, selon Schaeffer, trois plans, un plan dynamique, un plan mélodique et un plan harmonique. Il est dessiné comme ça. C'est encore une raison pour moi d'insister sur cet aspect formel. Parce que l'organisation de ce plan, il est ni plus ni moins fait selon, j'aurais pu le déduire en quelque sorte, hein, d'une table de catégories. Mais ce qui est intéressant, maintenant, et puis je vais peut-être m'arrêter là-dessus parce que j'ai déjà... ce qui est intéressant... Oui, je vais m'arrêter là parce que... ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, à chaque étape, si vous voulez, du raisonnement, j'essayais de vous montrer qu'il y avait précisément cette séparation entre un ordre formel et un ordre sensitif, difficile à définir pour lui-même. Dans le trièdre de Pierre Schaeffer, il y a un ordre purement formel. C'est des catégories au même sens que les catégories logiques. C'est les mêmes. Mais cet ordre purement formel, ben justement, c'est un ordre. C'est un ordre. Mais c'est un ordre qui permet de comprendre quelque chose qui va se déployer, ben, pas comme un ordre, parce qu'une note, ça ne va pas se comprendre comme un ordre logique. Et pourtant, c'est en quelque façon réglementé par une forme qui est une forme qu'on peut dire logique si on veut. On peut la dire géométrique, à la limite, mais en tout cas, une forme d'idéalité. Ce que je suggère pour terminer, c'est là où je cherchais à en venir, c'est que, au fond, entre les sens et puis différents, la polysensorialité. Et puis d'autres phénomènes, comme des phénomènes linguistiques ou des phénomènes tout simplement des phénomènes de pensée. Il semble bien qu'il y ait en quelque sorte la possibilité de décrire des phénomènes très très généraux, comme par exemple la fonction sémiotique, comme les différents ordres de la forme, les différentes catégories, et une syntagmatique et une paradigmatique, et bien d'autres choses sans doute, mais que par là, on atteint, pour ainsi dire, pas la perception, on n'atteint pas la sensation plus exactement. On atteint une sorte de généralité qui est commune absolument à tous les phénomènes. Or, le fait qu'ils soient transcriptibles les uns dans les autres, d'une certaine façon, tout en perdant, c'est par là que j'ai commencé, tout en perdant leur efficace passionnelle, je pense qu'on peut commencer par l'expliquer comme ça. Et ce n'est pas une explication, c'est juste une description. Expliquer, c'est autre chose. J'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus long prévu, non ? Je suis désolé. Hein, c'est aucun sens du temps. Aucun sens du temps. Et...
Hein ? Il
faut faire de la musique pour avoir la conscience. Il ne suffit pas d'écouter les rivières.
Tout à fait ça. Des questions. Alors moi, je vais rebondir sur la dernière chose que vous venez de dire, parce que je pense qu'elle est, elle est active aussi dans notre domaine, en géologie. C'est un problème qu'on a très souvent entre description et explication. Alors, entre description et ce que nous, on va appeler interprétation, avec un arrière-plan qui dérive
évidemment, c'est de la sémiotique, et puis ça peut ne pas en être de l'herméneutique, ça peut être tout un tas de choses. Et c'est évidemment, cette frontière, enfin, c'est une frontière qu'on établit, parce qu'au fond, c'est pas si simple. C'est-à-dire que dès qu'on commence, nous on l'a vu, la première séance, on avait des choses qu'on a appelées des descripteurs audio. Donc, c'est des choses qui sont censées décrire. Et on s'aperçoit en fait que ces descripteurs comprennent quelque chose d'une telle manière qui donne déjà à comprendre quelque chose de précis qui est en eux, en fait, qui est dans leurs paramètres, dans leurs affaires, etc. Et donc la question que j'ai envie de vous poser vraiment, c'est parce que je pense qu'elle est profondément dans la sémiotique, cette division. Est-ce qu'on peut la faire vraiment, cette séparation? C'est-à-dire que, est-ce qu'au fond, dès qu'on commence à décrire déjà quelque chose des espaces de référence dont on a parlé à la communication précédente, sont déjà agissants?
La seule réponse que je peux vous faire, elle est très, très, très générale en même temps. S'il y a une séparation entre, au fond, l'ordre formel qui est l'ordre explicatif, parce qu'on explique que par la forme, il n'y a pas d'autre, quelle qu'elle soit, il n'y a pas d'issue à ça. Et cette séparation, elle n'a pas d'autre, je dirais, il n'y a pas d'autre moyen de la surmonter que d'essayer de faire d'une façon ou d'une autre intervenir la forme dans le sentiment, dans la sensation, etc. Et ça, c'est quand même l'objet des arts de faire ça. Hein, c'est bien ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent bien de faire rentrer c'est d'ailleurs pourquoi ils sont forcément réflexifs. Ils essayent de faire voir leur propre intelligibilité, en quelque sorte. Ça, je pense que... Mais ça, c'est un peu une thèse esthétique, mais vous voyez, c'est ça. C'est comme ça que les arts s'en sortent. Mais, enfin, ils sont faits pour ça, peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. Mais comment faire rentrer leur propre... Oui, c'est ça.
Parce qu'à la fois... méthodologiquement, à l'heure d'enseigner par exemple l'analyse, cette séparation entre description et interprétation, j'ai envie de la faire pédagogiquement, parce que justement la confusion des deux peut être dramatique parfois. Donc c'est là que c'est plus compliqué, c'est plus pervers, parce que au fond c'est pas. J'en ai besoin aussi. J'ai besoin de le penser comme ça. Alors qu'au fond, je sais bien que c'est pas si simple.
Souvent, il y a des... C'est quelque chose où peut-être on ne tient pas assez compte, mais il y a sûrement des mauvaises musiques, par exemple. Et pourquoi, en quelque sorte, dire que c'est un jugement subjectif, ça me paraît absolument à côté de la... Comme il y a des mauvaises peintures. Même des peintures qui sont mauvaises, même si elles sont techniquement très bien, par exemple. Un excellent dessinateur, et ça fait une mauvaise peinture, pourquoi? Vous voyez, ça c'est... Et pourquoi, au contraire, même des peintures un peu... qui sont vraiment des grandes peintures, alors ça vient d'où? Voilà, c'est le rapport à l'intelligible, quand même. Sinon...
Non, mais là, vous avez dit quelque chose... là-dessus, je ne sais pas si vous avez fait exprès, mais vous rejoignez Deleuze, en fait.
Oui.
Quand vous avez dit ça tient.
Oui, c'est ça, ça tient.
Ça tient ensemble. Moi, j'ai été frappé quand même en disant qu'est-ce que la philosophie de Deleuze. Vous pouvez faire une lecture de ça, et ça aboutit à presque cette question-là. C'est-à-dire à un moment, une œuvre d'art, ça tient. Mmh. Et on ne sait pas en dire beaucoup plus.
Mais c'est déjà l'idée qui, vous voyez, si ça tient, c'est qu'il y a des parties qui s'accrochent entre elles.
Ouais.
sur un référentiel. C'est le référentiel. Le référentiel qui fait tout. C'est comme une vitesse, ça ne peut pas se dire sans référentiel. Je pense qu'il faut laisser là. Je suis désolé, j'ai pas. Mais j'ai aucune idée de ce que.
Oui, peut-être une question. Oui. Jean-François, seulement. Je te pose une question, une réflexion ouverte. Pour ce qui concerne la stabilisation de forme dans la relation entre le sujet et son paysage en pensant à les effets. Alors, bien évidemment, il y a de problèmes de transformer cette relation entre le sujet et le paysage intentionnalisé, et finalement, de multiplier finalement les liens possibles et les formes de relations, donc de valeurs possibles. Alors, dans cette stabilité morphologique, évidemment, il y a un rôle prééminent de la figurativité. Les corps à corps, donc l'idée de pouvoir construire une sorte de moment sur l'habilité, finalement, d'interaction. Donc, est-ce qu'on peut. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on va au-delà de tout ça, à travers par exemple l'organisation plastique, et donc avec la musique? Est-ce que l'extraction diagrammatique, l'idée d'avoir une sorte de stabilisation formelle pour articuler de signification figurative commence à se déstabiliser, à s'autonomiser finalement? Parce qu'il n'y a plus cette règle de la figurativité, de la confrontation. Parce que même en musique, on a vu un peu cette idée de la. Dans la relation entre les arts visuels et la musique, il y a eu cette thématisation d'un changement que tu peux, dans les régimes des traitements de forme. Je me souviens d'une composition de Dieter Schnebel qui trouvait musique visuelle. Alors là, il y a une sorte d'expropriation entre le rôle du chef d'orchestre et les instrumentistes. De plus en plus, le chef d'orchestre commence à prétendre de produire de sons, de jouer. Et en revanche, les instrumentistes commencent à faire des gestes comme pour signaler qu'ils sont en train de diriger, de maîtriser les temps, de donner des attaques aux autres, etc. Donc la musique semble s'exhiber comme une forme d'expropriation, comme une forme de possibilité de gérer des morphologies sans avoir des ancrages, sans avoir de.
Des ancrages figuratifs, tu veux dire?
Oui.
Oui. Oui. Ben là, même pour les morphologies, le figuratif, c'est quand même un cas. C'est un cas, mais. On peut. Je crois que sur cette base de réflexion, tout est possible. Enfin, c'est ce que tu as raconté tout à l'heure, ça me va tout à fait, ça.
Donc, selon toi, il n'y a pas de différence très forte entre la musique, etc. On peut trouver la même chose dans les autres formes expressives.
Oui, ça, certainement. De ce point de vue-là, oui. Ah oui, si on prend pas.
Donc, on peut distinguer les régimes.
Jusqu'à un, encore une fois, jusqu'à un certain point. C'est ça qui est très, très bizarre, en fait. C'est bizarre, mais en même temps, je veux dire, c'est une expérience qu'on ne peut pas, me semble-t-il, ne pas avoir. C'est-à-dire qu'il y a un point où ça ne passe plus. De même que à partir du. Il semblerait, par exemple, que à partir de nos. C'est un phénomène, par exemple, un phénomène conceptuel. À partir des. Bon, on peut penser, par exemple, que à partir de catégories extrêmement abstraites, comme le fond, je ne sais pas, mathématicien, par exemple, on peut arriver à... Mais non, il y a un moment où ça s'arrête. On ne peut pas arriver à toucher. C'est ça le tact. Hein, le tact qui est dans tous les... qui est aussi bien dans la vue, dans le nez. On ne peut pas arriver à toucher. Et donc le sentiment de l'existence, on ne peut pas l'avoir par ce biais. Descartes disait les mathématiciens n'ont pas d'égard à l'existence, oui, c'est vrai. On ne peut pas arriver à toucher. Et ça, c'est mystérieux quand même.
Je crois bien. Nous avons touché quelque chose.